Le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le bouddhisme, parfois on parle de religion, parfois on parle de philosophie, mais, et c'est juste hein, dans les deux cas, ça peut tout à fait être juste, mais ça dépend ce qu'on entend en fait par religion, par philosophie. Ce qui est important de comprendre, c'est que le bouddhisme, c'est une attitude avant tout, c'est une attitude. C'est un regard qu'on porte sur les choses. On s'entraîne à avoir un regard et une attitude qui nous aide à maintenir ce regard, un regard qui arrête de se raconter des histoires. On s'entraîne à voir les choses telles qu'elles sont, véritablement. La vraie nature des choses. On s'entraîne à se désillusionner. Et voilà, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle du bouddhisme. Et même le terme bouddhisme n'est pas forcément très, très juste, hein. C'est un terme qui est apparu très tard. Quand on parle des bouddhistes, il y avait un maître tibétain qui disait que probablement ce terme était apparu assez tardivement et venait des pays frontaliers de l'Inde, à l'ouest de l'Inde, donc le Pakistan, l'Afghanistan, tous les habitants qui vivaient finalement de l'autre côté de la rivière Sindhou. Et en gros, tous ceux qui étaient de ce côté-ci, c'était les hindouistes et les bouddhistes, et puis grosso modo, ceux qui étaient de l'autre côté, c'était les musulmans. Et les musulmans considéraient tous les habitants de l'autre côté de la rivière Sindhou comme les hindouistes et les bouddhistes. Et ce terme est apparu de là. Mais ce qu'il faut comprendre quand on dit bouddhisme, c'est en Orient, on parlait des pratiquants du Dharma, ceux qui étudient et pratiquent l'enseignement du Bouddha. Et mettre en pratique le Dharma, ça consiste à s'entraîner, à avoir un regard lucide sur les choses. Donc après, si on considère que le fait de s'entraîner à avoir un regard lucide sur les choses, on peut le considérer comme une religion, pourquoi pas. Mais voilà, faut bien voir qu'est-ce qu'on entend par religion. Effectivement, c'est pas faux, parce que dans le bouddhisme, il y a des gens qui vont le pratiquer de manière très formelle, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer à leur vie des rituels, comme le fait de méditer assis sur un coussin, ou faire des offrandes. Voilà, il y a plein de choses qui sont ritualisées dans le bouddhisme, mais tous ces rituels, en fait, ne sont pas gratuits. Tous ces rituels, ils ont tous pour fonction de nous apprendre à cultiver un certain regard par rapport à la chose. Un regard qui nous désillusionne. Et donc, on met en place des choses pour nous rappeler à ce projet d'éveil. Donc, il ne s'agit pas du tout de quelque chose les religieux pratiqueraient et les laïcs ne pratiqueraient pas. On peut pratiquer le bouddhisme de manière formelle ou non formelle, ça dépend de nous, qu'on soit moine ou pas. On peut très bien pratiquer le bouddhisme en étant moine, mais de manière totalement invisible, comme on peut être laïque, totalement laïque, et pratiquer le bouddhisme en intégrant des rituels, des protocoles dans notre quotidien, si ça nous aide. Donc il est faux de parler par exemple de bouddhisme laïque. Il y a des choses, des notions comme ça qui apparaissent, qu'on entend souvent quand on parle par exemple de pleine conscience, de parler de bouddhisme laïque. Et ça n'a qu'on soit moine ou qu'on soit laïque, on pratique exactement le même enseignement. Après, les méthodes qu'on utilise, parmi l'éventail des méthodes proposées par le Bouddha, bah, ça dépend de nous en fait, ça dépend de nos affinités, ça dépend de notre compréhension. Et donc, ce dont il s'agit, c'est-à-dire, il s'agit d'une attitude. Le dharma, le bouddhisme, est une attitude. Un regard qu'on porte sur les choses. Et ce regard, il faut le cultiver. Il faut cultiver l'aspiration à arrêter de se raconter des histoires. Voir les choses telles qu'elles sont. Il faut le cultiver jour après jour, instant après instant, parce qu'on a une forte tendance justement à baigner dans la confusion. On est habitué à la confusion. Donc il s'agit d'un entraînement. Le dharma, c'est principalement un entraînement. Et cet entraînement, on le résume dans certains enseignements à trois choses. Il y a la conduite, la méditation et la sagesse. Conduite, méditation, sagesse. Conduite, parfois on dit l'attitude. La conduite, ça va être le support pour le reste. Une base très importante, un support très important. Le support des actions positives, le support de la vertu. Le support de qu'est-ce qui est à rejeter, qu'est-ce qui est à adopter, qu'est-ce qui a des conséquences, qu'est-ce qui a des conséquences douloureuses, qu'est-ce qui est cause de souffrance et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui a le pouvoir de m'éveiller et qu'est-ce qui n'a pas le pouvoir de m'éveiller. On parle donc de la conduite, parfois on parle de l'attitude, parfois on parle de l'action. Voilà, il s'agit de la même chose. Qu'est-ce qui a adopté, qu'est-ce qui a rejeté. Ensuite, on va parler de la méditation. La méditation aussi très important pour comprendre les choses plus profondément, pour voir les choses telles qu'elles sont. On va avoir besoin de comprendre notre esprit, de voir comment il fonctionne. Et pour pouvoir observer le fonctionnement d'esprit, il faut apprendre à le pacifier un peu. À le calmer, à le rendre plus clair, plus limpide. Et c'est le propos de la méditation. Apprendre à être stable, apprendre à pacifier notre esprit de façon à le voir plus clairement, à comprendre plus clairement. La méditation et enfin la sagesse. Parfois on dit la vue. La sagesse, la vue. Ou vipassana, on dit aussi, en sanskrit, vipassana. Voir les choses telles qu'elles sont. Voir les choses plus profondément, vipassana. Voir la véritable nature des choses. On traduit par vision pénétrante, c'est-à-dire on voit au-delà des apparences. Les choses ne sont pas telles qu'elles nous apparaissent. Voilà, la sagesse, ça va être un entraînement pareil, indispensable, pour comprendre ce que nous sommes véritablement et ce que sont les phénomènes, ce qu'est le monde. Et donc ces trois entraînements, conduite, méditation, sagesse, sont interconnectés. On les travaille ensemble, ils s'interpénètrent les uns les autres. Chacun est le support pour l'autre. Et donc là, ce mois-ci, je voulais aborder la vue, la sagesse, la vue. Et pour aborder la vue, il faut avoir déjà un préalable. Ce préalable, on l'a d'emblée dans toutes les introductions au bouddhisme, dans tous les enseignements. Voilà, il s'agit du premier enseignement du Bouddha aussi. Quand on parle des quatre nobles vérités, on va parler de la vérité de dukkha. Pour pouvoir voir les choses plus profondément, il faut déjà contempler notre expérience. Voir que dans notre expérience, eh bien, malgré On cherche le bonheur intensément, ardemment, et depuis longtemps, on ne le trouve pas. On ne trouve pas le bonheur. Et c'est pas faute d'y mettre de l'énergie. On y met tous beaucoup d'énergie pour. On cherche tous à être heureux, on cherche tous à éviter la souffrance, et pourtant, on ne trouve pas ce bonheur. Et ce que nous enseigne le Bouddha, c'est que on ne trouve pas le bonheur parce que. On ne s'attaque pas à la racine de nos problèmes. On ne s'attaque pas à la racine de la souffrance. On ne voit pas les choses clairement. C'est ça la racine de la souffrance, l'ignorance. En Dharma, on dit que l'ignorance est la racine de toute souffrance. Notre confusion est la racine de toute souffrance. On ne voit pas les choses très, très clairement. Donc on les interprète, on se raconte une histoire sur les choses. Et dans le samsara, cet état d'esprit confus, donc on l'appelle le samsara, ça se traduit grosso modo par l'attachement et l'aversion. L'attachement et l'aversion est la cause de tous nos problèmes. Et on nous demande, le Bouddha nous invite à le voir clairement, que le problème ne vient pas des choses. Le problème ne vient pas de ce qui nous arrive ou ce qui ne nous arrive pas. Le problème vient de notre façon de les vivre, de notre façon de réagir aux choses, l'attachement et l'aversion. L'attachement, c'est... L'attachement, ça va se traduire par plusieurs choses. On se promène, et puis sur le chemin, on voit une jolie fleur. Ça procure une sensation agréable, un sentiment agréable. Et au lieu de s'arrêter là, au lieu de s'arrêter à la jouissance que procure cette fleur, la vue, le contact avec cette fleur, immédiatement après, il va y avoir ce qu'on appelle l'attachement, c'est-à-dire ce mouvement d'esprit qui dit il me faut cette fleur, il me faut la posséder, il me faut me l'approprier. Et dès lors qu'il y a ça dans l'esprit, notre paix disparaît. On crée à ce moment-là un sentiment d'insatisfaction. Alors que tout allait bien avant qu'on croise la fleur, il y a une sensation agréable et immédiatement après vient l'attachement. Il me faut cette fleur. Et dès lors qu'il y a il me faut cette fleur, il me manque cette fleur pour être heureux, on crée l'insatisfaction dans notre esprit. Cette insatisfaction ne vient pas de la fleur en elle-même. Elle vient de l'attachement, de ce mouvement, de cette soif dans l'esprit, l'attachement. Et donc, on crée cette insatisfaction dans l'esprit qui provoque, qui dit, tant que je n'ai pas cette fleur, je ne serai pas heureux. Il me faut cette fleur, et une fois que je l'aurai, je serai heureux. Et donc, on a un problème. Cet attachement provoque un problème, la satisfaction. Et de cet attachement va découler plein d'autres problèmes. C'est-à-dire, admettons qu'on arrive à obtenir la fleur. Une fois qu'on obtient la fleur, et derrière la fleur, vous pouvez mettre n'importe quelle situation, n'importe quelle relation, n'importe quelle... Enfin voilà, on peut mettre plein de choses derrière la fleur. Dès lors que je dis il me faut cette fleur et que j'arrive à l'obtenir, très vite, toujours à cause de l'attachement, il y a la peur que de ne plus avoir cette fleur. Il y a la peur que cette fleur ou cette situation ou cette relation disparaisse. J'obtiens ce que je considère comme étant le bonheur et dès lors que je l'ai, j'ai peur de le perdre. Et du coup, là encore, mon esprit est insatisfait, on a un autre problème, qui est le fait d'avoir peur de perdre l'objet de plaisir, l'objet de désir. Et puis, il y a d'autres problèmes qui peuvent naître de ça, c'est-à-dire on arrive à obtenir une situation, une circonstance qu'on considère comme bénéfique, comme positive, et... Et il y a aussi l'autre problème, c'est de vouloir s'en débarrasser quand cette situation ne nous convient plus, quand cette situation ne nous plaît plus. On dépense beaucoup d'énergie pour obtenir ce qu'on veut, et puis à un moment donné, peut-être ça peut prendre des années, et une fois qu'on l'a, on n'en veut plus. On se rend compte que finalement c'est pas ça. Soit on ne l'aime plus, soit c'est pas ce qu'on attendait. Voilà. Et donc du coup on a le problème de vouloir s'en débarrasser. Un nouveau problème, celui de vouloir se débarrasser de ça. Et l'autre versant de l'attachement, c'est l'aversion. L'aversion, c'est je ne veux pas rencontrer cette situation-là. Si je l'ai, je veux absolument m'en débarrasser. Voilà, quand on rencontre une situation désagréable, inconfortable, déplaisante, on veut à tout prix s'en débarrasser. Et donc du coup, là, l'esprit n'est toujours pas en paix. Il est insatisfait. Et donc, non seulement ça, mais en plus, avec l'aversion, en fait, on a même des problèmes quand le problème n'est pas là. C'est-à-dire, parfois, on arrive à éviter certains problèmes, on arrive à esquiver, on arrive à plus ou moins mettre en place des stratégies pour ne pas rencontrer telle ou telle situation. Et finalement, à un moment donné, on arrive à se mettre à l'abri de ça, mais il y a toujours, l'esprit est pas en paix parce qu'il y a toujours la peur que cette situation pourrait se reproduire, que cette situation pourrait arriver. Donc même quand il n'y a pas le problème, on a encore un problème à ce moment-là. La peur que ça se produise. Et donc c'est pas réglé. Et puis avec l'aversion, quand on a un problème, bah on s'efforce de le régler. Et puis d'ailleurs, aversion ou pas, quand il y a un problème, il est bon de trouver une solution pour améliorer les choses, pour régler les choses, et c'est ce qu'on fait. Mais le problème de l'aversion, c'est qu'on pense qu'on va pouvoir se mettre à l'abri des problèmes définitivement. Et c'est là la nuance. C'est que ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre plus profondément, c'est que on passe notre vie finalement à résoudre des problèmes. Et quand un problème est résolu, il y en a un autre qui apparaît. Et puis parfois, il y en a même deux qui apparaissent, trois qui apparaissent. Donc on passe notre vie à résoudre des problèmes. Et même parfois, il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre tout simplement. Ils sont là et puis ils nous suivent jusqu'au bout. On n'arrive jamais à s'en débarrasser. Et que ça, en fait, c'est l'expérience du Bouddha. C'est l'expérience qu'a fait le Bouddha. Au départ, le Bouddha était destiné à devenir l'héritier du royaume. Ouais, c'était un prince destiné à succéder au royaume de son père. Et il a eu un choix à faire. Soit il devenait un grand monarque avec beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence, beaucoup de richesses, beaucoup de privilèges. Soit il décidait de se tourner vers la vie spirituelle. Et ce qu'il a vu, c'est que malgré l'influence, tout le pouvoir dont il pouvait bénéficier, les moyens dont il pouvait bénéficier, même en étant un grand monarque, ça ne suffirait pas à résoudre non seulement ses problèmes, mais en plus le problème de son peuple, le problème des autres, etc. Que ça ne pouvait pas solutionner tous les problèmes. Et c'est pour ça qu'il s'est décidé de... Il s'est mis en quête d'une voie, de quelque chose qui pouvait lui apporter une réelle solution. Et c'est le propos de beaucoup de traditions spirituelles. Qu'est-ce qui peut vraiment nous aider? Et à l'issue de cette quête, ce qu'il a découvert, c'est que, en fait, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il est impossible d'envisager de pouvoir se débarrasser d'absolument tous les problèmes. Mais ce qu'il a découvert, c'est que, par contre, on peut travailler sur notre esprit. On peut apprendre à transformer notre façon de vivre les problèmes, de façon à ce que les problèmes ne soient plus des problèmes. Et c'est ça l'éveil du Bouddha, de voir que personne ne peut résoudre tous les problèmes. Il y aura toujours des problèmes, mais que on va pas attendre d'être que tous nos problèmes soient résolus pour être heureux. C'est ça le message du Dharma. On va pas attendre que tous nos problèmes soient résolus pour être heureux, parce que sinon on va attendre longtemps. On peut toujours attendre. Par contre, il existe, on peut travailler sur notre façon de réagir aux choses. On peut transformer notre regard sur les choses, de façon à être totalement libre, qu'il y ait problème ou pas. Et c'est de ça qu'il s'agit dans le Dharma. Parce qu'on pourrait toujours se dire que possibilité d'améliorer la situation, et c'est très bien. Quand c'est possible d'améliorer la situation, c'est important de le faire. Mais que cette option-là est limitée. Parce que de toute façon, tant qu'on ne travaille pas sur l'esprit, ça ne suffira pas à nous rendre totalement heureux. Ne serait-ce que parce que l'esprit a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Même quand il y a 100 choses qui vont bien, bah, il suffit d'une chose qui va de travers pour que les 100 choses qui vont bien, ça ne compte plus. Ça n'a plus d'importance. On ne s'en rend plus compte, on est focalisé sur ce qui ne va pas. Ça peut être, et puis parfois ça peut vraiment être à travers des toutes petites choses. Il suffit d'un rien pour que l'esprit devienne très négatif et l'esprit souffre. Ça peut être ne serait-ce que le téléphone qui nous lâche, qui ne marche plus alors qu'on a toutes nos photos de tous nos voyages dessus et que du jour au lendemain, notre téléphone nous lâche et on en fait tout un fromage alors que... À côté, on pourrait ne pas avoir de problème de logement, ne pas avoir de problème de nourriture, ne pas avoir de problème de relationnel, etc., ou de santé. Bah, il suffit d'un événement comme ça pour que ça suffise à nous pourrir la journée, et ça, on le sait très bien. Voilà, ça montre bien que améliorer la situation, et même obtenir une situation extrêmement privilégiée, ne suffit pas à nous rendre heureux. Et on le voit très bien dans le monde. Il y a des gens qui ont tout pour être heureux, et pourtant ils ont l'impression de manquer de tout. Et inversement, il y a des gens qui n'ont rien du tout, et ont l'impression que le monde leur appartient. C'est aussi, souvent je cite cette interview de Jim Carrey, l'acteur hollywoodien, que j'avais entendu, ça m'avait marqué, cette interview où un journaliste lui disait, depuis quelque temps, vous faites plus de tournage, vous tournez moins, et puis vous êtes tourné vers la spiritualité. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Et Jim Carrey lui répondait qu'il avait le sentiment qu'il avait accompli tout ce qu'un homme pouvait accomplir, il avait obtenu tout ce qu'un homme pouvait rêver d'avoir, et que ça l'avait bouleversé de constater qu'il n'était toujours pas heureux. C'est un peu le... Le Bouddha fait partie de ce profil-là. C'est-à-dire des gens qui naissent dans des conditions extrêmement privilégiées puis qui se rendent compte que finalement ça suffit pas. Et de voir que améliorer les situations, c'est très bien, mais que ça ne suffira pas à nous rendre totalement heureux. Et dans le samsara, tant qu'il y a l'attachement et l'aversion, on va rencontrer le symptôme du samsara qui est dukkha, la souffrance, l'insatisfaction, la déception. c'est le symptôme. Et ce symptôme de dukkha, cette souffrance, ne vient pas du fait que les choses arrivent ou n'arrivent pas. Cette chose ne vient pas des problèmes. Cette chose vient de notre façon de vivre les problèmes, notre façon de réagir aux problèmes. Il y avait dernièrement quelqu'un qui a publié une vignette sur Facebook où on voyait Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes. Donc Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp, qui disait « Le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment tu réagis au problème. » Voilà, je trouvais ça très, très marrant parce que c'est complètement bouddhiste comme citation. Et déjà, comprendre ça, si on comprend très profond, plus clairement ça, si on comprend de manière plus profonde, on va voir qu'en fait, on va comprendre que ça vient de nous-mêmes, que ça vient de notre façon de vivre les choses, que ça vient de notre façon de réagir aux choses, le fait d'être heureux ou de ne pas être heureux. Et dès lors, on va pouvoir vraiment consacrer notre énergie, pas seulement à travailler sur les situations, mais aussi à travailler sur notre esprit, à travailler sur cet attachement et cette aversion. Comprendre que l'attachement et l'aversion, au bout du compte, on n'en a pas besoin. C'est totalement inutile. Que le fait de trop s'angoisser par rapport au fait que certaines choses arrivent, ou de absolument vouloir que telle chose arrive en espérant que ça va enfin résoudre tous nos problèmes, que ça va enfin nous rendre heureux, ce genre d'attitude n'est pas utile parce qu'elle n'est pas efficace à nous rendre heureux. Au contraire, c'est même la racine de nos problèmes. C'est ce fonctionnement-là qui induit notre souffrance, qui induit notre insatisfaction. Donc, si on le comprend plus clairement, ça va être plus facile de travailler dessus. Plus on le comprend, plus ça va être facile de... On va être plus enclin à laisser tomber cette manière de réagir aux choses, l'attachement et l'aversion. La pratique du dharma, c'est très lié à ça. On va travailler sur notre regard sur les choses, on va voir les choses de manière plus lucide, et si on change notre façon de voir les choses, forcément, ça va entraîner une autre façon de réagir aux choses. On voit différemment, donc on réagit différemment. Ça va se faire très naturellement. Donc il s'agit vraiment de voir, mais au départ de comprendre de manière intellectuelle, comme on le fait là, de voir que cette façon de fonctionner, finalement, ça ne nous a jamais rendu heureux, et au contraire, ça contribue, ça nous maintient dans un état d'insatisfaction. Si je le comprends plus clairement, je vais pouvoir adopter une attitude de façon à déformater cette façon de réagir aux choses, cette habitude de fonctionnement. On va se déformater d'un mode de fonctionnement, qui est celui de l'attachement et de l'aversion. De voir que, par exemple, en ce qui concerne l'aversion, ça se traduit par la peur que les choses arrivent, l'angoisse que certaines choses arrivent. Il est beaucoup question de ça. De voir que le fait de s'angoisser par rapport au futur, par exemple, n'empêche pas les choses d'arriver. Le fait de trop s'angoisser, le fait d'être trop anxieux par rapport à certaines choses, n'a jamais empêché ces choses-là d'arriver. Alors après, c'est mal compris parce que parfois certaines personnes vont dire « Bah oui, mais alors du coup, on ne fait plus rien si on arrête de réagir. » Si on arrête de s'angoisser, du coup, bah, on peut nous rouler dessus, on peut nous marcher dessus, on ressent plus rien, on fait plus rien, on se démobilise. Et il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de se démobiliser. Il s'agit de comprendre que, par exemple, personne ne souhaite être malade. Et on fait tout ce qu'il faut pour ne pas tomber malade, et c'est très bien. c'est important de ne pas tomber malade, mais que même si on fait tout ce qu'il faut, très souvent on tombe malade quand même. Et que ça ne sert à rien de s'angoisser à l'idée de tomber malade, de cultiver la peur, de cultiver l'anxiété par rapport à ça, parce que ça ne va pas nous aider à améliorer la situation, ça ne va pas apporter quelque chose de plus à la situation, ni pour nous, ni pour les autres, le fait de s'angoisser par rapport à ça. Et le fait de ne pas s'angoisser par rapport à ça ne nous empêche pas de faire tout ce qu'il faut pour ne pas tomber malade, de faire attention à notre alimentation, de faire attention à... Voilà, de prendre des médicaments, etc. Ça n'empêche pas de répondre à la situation, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais de comprendre que réagir par l'anxiété, réagir par la peur, il n'y a pas besoin, c'est inutile, ça nous apporte rien de positif. Et c'est de ça qu'il est question, quand on parle de travailler sur l'aversion. Il ne s'agit pas de se démobiliser, il s'agit d'une réaction psychique, pas tant de la réponse à la situation. Mais dans quel état d'esprit je réponds à la situation? De la même façon, l'attachement. Le fait de ne pas cultiver d'attachement, de ne pas trop avoir d'attente par rapport aux choses, d'attente par rapport au fait que telle ou telle chose arrive, au fait que tel projet se concrétise ou pas, ne nous empêche pas de faire de notre mieux pour que ça arrive. C'est très important à comprendre cette nuance-là, c'est que quand on dit ne pas avoir d'attachement, c'est-à-dire ne pas avoir trop d'attente par rapport aux choses, que parfois les choses arrivent, mais pas que tout ne dépend pas de nous. C'est être prêt à envisager que les choses ne se passent pas comme on l'imagine. Qu'on n'est pas en mesure de pouvoir garantir qu'on va pouvoir obtenir ce qu'on veut, qu'on va pouvoir garder ce qu'on a obtenu, parce que tout ne dépend pas de nous. Et le fait de comprendre ça, ça ne nous empêche pas d'avoir une grande motivation, d'aspirer à ce que certains projets se réalisent, d'aspirer à obtenir certaines choses, mais on est prêt à envisager que peut-être ça peut pas marcher. Voilà, on est prêt à envisager que, par exemple, pour un projet, si ça marche très bien, si ça marche pas, je suis prévenu, donc je suis pas complètement bouleversé, complètement démoralisé, découragé. Voilà, on peut se lancer dans un projet et voilà, ça ne nous empêche pas d'être très actifs, ça ne nous empêche pas de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le projet se réalise, voilà, de planter les bonnes graines, de faire de notre mieux, etc. Mais tout en faisant ça, on est prêt, on sait d'avance que ça peut ne pas marcher. On est prévenu. Et dès lors qu'on est prévenu, bah du coup, on n'est pas paralysé par la peur que est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire. Et c'est de ça qu'il s'agit. De comprendre que profondément, notre bonheur ne dépend pas de ça. Comprendre que c'est pas ça l'enjeu. Si on comprend que notre bonheur profondément ne dépend pas du fait que telle chose ou telle chose n'arrive pas, telle chose arrive, telle chose n'arrive pas, du coup il y a moins d'enjeux. La nature de l'enjeu est différente et donc du coup on peut apprendre à se détendre. On peut apprendre à se détendre. Quand on travaille sur un projet, on peut apprendre à se détendre quand les bonnes choses arrivent. On peut apprendre à se détendre quand les bonnes choses disparaissent, on peut apprendre à se détendre quand les mauvaises choses arrivent. C'est ça l'idée. Parce qu'on comprend que notre bonheur, finalement, ne dépend pas du fait qu'il y ait des problèmes ou pas de problèmes, ça dépend de nous, de notre façon de vivre les choses. Et voilà, c'est tout le propos. Il s'agit vraiment d'apprendre à être heureux. Dans le dharma, on apprend à être heureux. Plutôt que de chercher le bonheur. Dans l'idée de chercher le bonheur est toujours envisagé une fois que on aura cette situation favorable et une fois qu'on se sera débarrassé de cette situation défavorable. Et donc dans ce mode de fonctionnement, on est sans arrêt en train de courir après quelque chose ou de fuir quelque chose. Et on n'est jamais heureux. Même si parfois il y a des petites satisfactions, des petits bonheurs. Mais on n'est jamais tranquille dans le samsara. On ne peut jamais totalement se reposer dans le samsara. Parce que on sait que les bonnes choses ne durent pas. Et qu'il peut toujours y avoir un caillou dans la chaussure. Dans le dharma, tout l'entraînement, c'est d'apprendre à être heureux. Qu'il y ait problème ou pas. Qu'il y ait circonstances favorables ou pas. Et même cet entraînement, il est ambitieux, c'est-à-dire un entraînement qui vise à nous rendre heureux en toutes circonstances, apprendre à être heureux, apprendre à garder un esprit stable, joyeux, paisible, en toutes circonstances, problème ou pas, maladie ou pas, vieillesse ou pas. Souvent, on parle des huit dharmas mondains. Qu'il y ait plaisir ou déplaisir. Qu'il y ait richesse ou pauvreté. Qu'il y ait gain, qu'il y ait perte. Qu'il y ait critique, qu'il y ait louange. Qu'il y ait popularité. Qu'il y ait mauvaise réputation. Voilà. Le dharma, ça nous invite à être libre en toutes circonstances. Quelles que soient les circonstances. Et si on comprend ça plus clairement, on va envisager donc, c'est ce qui va nous permettre de développer la vue, que la vue s'épanouisse en nous, qu'elle devienne, que la sagesse s'élève dans notre esprit. Ça va nous permettre de voir les choses plus profondément. Si on arrête de se raconter des histoires sur les choses, si on arrête de courir après certaines choses en les considérant comme étant le bonheur, ou se mettre à l'abri de certaines choses en les considérant comme étant le malheur, on va pouvoir vivre les choses avec moins d'a priori, justement. En les confinant moins dans des cases. Ça c'est le bonheur, ça c'est le malheur. Et ça va nous permettre de les voir plus profondément. De les voir pour ce qu'elles sont. Et c'est ça qu'on appelle la sagesse. Le Bouddha nous invite à... Il utilise donc des images, un langage très imagé. Il nous invite à voir tous les phénomènes comme des rêves, comme des illusions magiques, comme un éclair, comme une goutte d'eau, comme une goutte de rosée, comme une bulle à la surface de l'eau, comme un nuage. Voilà, toutes ces images, elles ont chacune une particularité, mais elles traduisent toutes la même chose, le côté, il y a le côté apparence éphémère, le côté changeant, impermanent, fugace. On croit que c'est là, et puis l'instant d'après, c'est pas là. Le côté c- Voilà, quand on parle d'un nuage, on a l'impression d'apercevoir une forme et puis l'instant d'après, la forme a changé. Quand on parle d'un éclair, c'est très fugace. Ça apparaît, ça disparaît. Le rêve. Le rêve, c'est une image qu'on utilise très souvent dans le bouddhisme pour justement expliquer, traduire la nature de la réalité. Beaucoup de gens se souviennent de leur rêve, et pourtant on en parle très peu. Quelle est la différence entre notre expérience biologique, voilà, organique, et notre expérience qu'on a dans le rêve? De voir que finalement, quand on vit un rêve, quand on se réveille, on se rend compte que, aussi vif soit-il, voilà, on a pu vivre des expériences très intenses de plaisir, de bonheur, voire des expériences terribles, des expériences terrifiantes. Au moment où on se réveille, on se rend compte que tout ce qui nous reste de ça, c'est juste un souvenir. C'est juste, voilà, ça n'a pas eu un atome d'existence réelle. Et dans le Dharma, on nous invite à voir que notre expérience dans la vie biologique, elle est exactement, elle est très très similaire à beaucoup de points de vue à l'expérience qu'on fait dans le rêve, c'est-à-dire que toutes nos expériences, que ce soit les situations, que ce soit nos perceptions, que ce soit nos sensations, que ce soit nos émotions, que ce soit nos pensées, toutes ces expériences-là, finalement, elles apparaissent et disparaissent, et l'instant d'après, elles appartiennent au passé, c'est-à-dire, c'est juste des souvenirs. On a vécu énormément de choses négatives dans nos vies, on a vécu énormément de choses positives dans nos vies, et ce qui nous en reste aujourd'hui, bah, c'est juste des souvenirs, des pensées. C'est derrière, c'est plus là. À un moment donné, on avait l'impression que c'était là, que c'était très concret, très palpable, et puis l'instant d'après, c'est plus là. Et c'est pareil pour tout. Ce qu'on ressent, ce qu'on entend, nos pensées, ça apparaît, ça disparaît. Nos opinions changent tout le temps. Même le sens de nos vies, même le sens qu'on donne à nos vies, c'est quelque chose qui change tout le temps. Même le sens de la vie. Peut-être il y a quelques années, on envisageait que le sens de la vie, c'était comme ça, et puis maintenant, on envisage que c'est tout à fait autrement. On est invité à voir qu'il n'y a rien, finalement, sur lequel on puisse totalement se fier, totalement se stabiliser. Pour parler de la sagesse, il y a plein de méthodes pour envisager, pour développer la sagesse. On propose beaucoup de méthodes dans le Dharma, des méthodes analytiques qui vont faire appel à l'intellect, ensuite des méthodes plus expérimentales qui vont faire appel à la méditation, au fait d'observer directement les choses. Et donc y en a beaucoup. On parle beaucoup de l'impermanence, qui est un moyen justement de développer la vue. Quand on médite sur l'impermanence des choses, on pourrait dire qu'on fait un vipassana, que c'est une forme de vipassana. On observe les choses, et on observe particulièrement ce qu'elles ont en commun, ces choses-là, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, qu'on les aime, qu'on les aime pas. En tout cas, ce qu'elles ont de commun, c'est qu'elles sont impermanentes. Elles sont transitoires. Et ça, on peut le faire avec tout. On peut le faire avec les choses qu'on observe, à l'extérieur de nous-mêmes, on peut le faire avec notre corps, on peut le faire avec nos émotions, on peut le faire avec nos sensations et on peut le faire avec nos pensées. Donc par exemple, on nous invite d'abord à le faire avec les choses extérieures, parce que c'est un exercice qui est facile à faire. Observer le monde et voir qu'il n'y a rien dans ce monde qui soit permanent. Tout est instable. Le monde change. Tout le temps. Et même d'ailleurs, aujourd'hui, on sait qu'avec la science, on vit sur une planète qui tourne sans arrêt, qui est en constant mouvement autour du Soleil. Et en plus, elle tourne sur elle-même. Et en plus, le sol sur lequel on se maintient, en fait, sous la croûte terrestre, c'est du magma en fusion. Donc tout ça est très, 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 très instable. Et fait que les saisons se succèdent, que le jour succède à la nuit, que la nuit succède au jour. Et nous, petits grains de sable, dans cet univers immense, on espère avoir un contrôle total sur les choses. Voilà, ça peut nous inviter à voir qu'on est tout petit dans l'univers. On a un contrôle extrêmement limité. Et ça nous invite à contempler l'humilité de notre condition. Ça remet les choses en place. C'est une forme de vipassana. Dans le sens où ça nous aide à comprendre que travailler sur les situations, par exemple, c'est une option qui a beaucoup de limites. Ça nous permet de relativiser. Et pourquoi les choses sont impermanentes? Parce que les choses sont impermanentes parce qu'elles sont interdépendantes. On va beaucoup entendre cette notion d'interdépendance. Les choses n'existent pas par elles-mêmes, interdépendantes. Elles dépendent d'autres choses pour exister. Et c'est pareil pour tout. Par exemple, on prend souvent l'exemple d'une forêt, ce qu'on désigne par une forêt. Ce qu'on appelle une forêt, c'est une désignation. La forêt n'existe pas par elle-même. Quand on parle d'une forêt, eh bien, si on la voit de loin, on voit une forêt, mais dès lors qu'on rentre dans la forêt, on ne trouve pas la forêt. Ce qu'on voit, c'est un ensemble d'arbres. Et on appelle ça une forêt par convention. Ça nous aide à réfléchir, ça nous aide à communiquer. Voilà, d'utiliser les concepts, mais forêt désigne un concept et ne désigne pas une chose qui existerait réellement. Quand on va dans la forêt, on ne trouve pas de forêt, on trouve un ensemble d'arbres. Et ce qui compose cette forêt, elle est composée d'éléments qui eux-mêmes n'existent pas par eux-mêmes. Ils existent de manière interdépendante. Les arbres n'existaient pas. Un arbre n'existe pas par lui-même. Là encore, c'est une désignation qui va désigner un ensemble d'éléments. Quand on parle d'un arbre, on ne va pas trouver l'arbre à l'intérieur de l'arbre. Quand on regarde un arbre, on ne voit pas d'arbre, on voit un tronc, on voit des branches, on voit des feuilles, on voit des racines, on voit un sort. On ne va pas trouver à l'intérieur de l'arbre une véritable substance arbre. C'est encore une désignation, un concept qui va désigner un ensemble d'éléments. Et cet ensemble d'éléments est lui-même constitué d'ensemble d'éléments. Et c'est infini. C'est une fractale infinie. Si je décortique le tronc, bah je vais trouver, je vais pas trouver de tronc. Je vais trouver un ensemble de fibres de bois, et puis si je décortique la fibre de bois, ben je vais trouver des molécules de carbone, et puis si je décortique les molécules de carbone, je vais voir qu'elles sont composées d'atomes, et puis l'atome est lui-même composé d'un noyau avec des éléments subatomiques, etc. Et maintenant, on sait en plus avec la science que si on poursuit l'investigation à travers les particules subatomiques, eh ben, on trouve que ces particules subatomiques sont toujours composées d'éléments encore plus petits. Et qu'en plus, ces éléments plus petits sont majoritairement constitués de vide. Et tout ça pour ça peut nous permettre de voir que nos perceptions peuvent nous induire en erreur. On a l'impression que les choses sont telles quelles, mais si on regarde plus profondément, elles sont pas aussi solides qu'elles en ont l'air. Une pyramide, par exemple. Selon la personne à qui on demande, voilà, si on demande à quelqu'un c'est quoi une pyramide, la personne va nous répondre bah, la pyramide c'est triangulaire, voilà, c'est une architecture triangulaire comme ça. Et puis on va demander à quelqu'un d'autre, il va nous dire bah non, la pyramide c'est sombre. Au bout du compte, les deux ont raison. Les deux ont raison parce que bah voilà, si je regarde la pyramide de l'extérieur, je vais voir une architecture triangulaire. Mais si je rentre dans la pyramide, je ne vais pas voir un triangle. Ce que je vais voir, c'est que c'est sombre. Et puis si je demande à un archéologue, c'est quoi une pyramide? Il va me dire, bah non, une pyramide, c'est un tombeau. Voilà, tout dépend en fait du point de vue. Tout ça parce que. Et toutes ces vérités sont vraies d'un certain point de vue. Mais elles sont vraies parce que justement, la pyramide n'existe pas par elle-même. Elle n'a pas d'existence réelle en tant que quelque chose d'unique, quelque chose. La pyramide est composée d'un ensemble de choses. Elle est composée d'un ensemble de choses. Et en plus, elle dépend de quel point de vue je l'observe. Et la pyramide est constamment en mouvement en plus. Elle est constamment en train de changer. Il y a des gens qui vont dire, bah oui, ça fait. Ça, par contre, les pyramides, c'est très solide, ça bouge pas, ça fait des milliers d'années que ça n'a pas bougé. Mais en fait, là encore, ça dépend de l'observateur, parce qu'en fait, une pyramide, bah, elle est sur la croûte terrestre, et donc la Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures. Donc en fait, depuis des milliers d'années, la pyramide, elle n'arrête pas de tourner. Autour de la Terre, en fait, elle fait le tour du monde en 24 heures, depuis des milliers d'années. Mais nous, de notre point de vue, on a l'impression que la pyramide, ça bouge pas. Elle a toujours été là, elle n'a pas bougé depuis des milliers d'années. Et c'est là encore, c'est une façon, on va dire, analytique de comprendre que les choses ne sont pas aussi solides qu'elles paraissent. Elles ne sont pas aussi telles qu'on les perçoit. Et on peut faire ça pour tout. On peut faire ça pour notre corps. On peut faire ça pour nous-mêmes, de voir que le je qui dit j'aime, qui dit j'aime pas, qui dit je suis là et ça c'est là-bas. Ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas aussi figé que ça en a l'air. Nos opinions, ce qu'on pense en tant que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'aime pas. Tout ça fluctue. Il y a des situations qu'on considère très négatives. Et puis finalement, après les avoir vécues, on se rend compte que finalement, ça nous a apporté quelque chose. On a pu en tirer certaines choses. Ça nous a aidé à grandir. Il y a des choses, au contraire, qui nous ont semblé très positives, mais qui finalement ont entraîné beaucoup de choses négatives. Que ce qu'on aime il y a quelques années, on ne l'aime plus quelques années après. Et inversement. Qu'il y a des gens qu'on n'aimait pas avant et puis qu'on aime bien maintenant, qu'on apprécie, etc. Beaucoup de choses changent, que nos opinions changent. Et nos opinions changent parce qu'elles aussi, elles sont très interdépendantes. Ça dépend de nos influences, de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vu, de comment on a été éduqué, de comment. Et puis voilà, un jour on pense ça, et puis le jour d'après on lit un article, et puis on pense complètement différemment, on pense l'opposé. De voir que tout ça fluctue, que notre sentiment d'un moi solide, figé, indépendant, il est remis en question. Et on nous invite à regarder toutes les choses comme ça, comme un rêve. Les choses apparaissent, elles ont l'air d'être là, elles ont l'air très figées, elles ont l'air très comme ci, comme ça, mais finalement ça change très vite. Ça n'est pas comme ça. Les choses ne sont pas aussi solides. Les choses, toutes les phénomènes ont la nature du rêve. Ça apparaît, ça disparaît. Ça change, ça se transforme. Tout le temps. Et donc, si on comprend ça plus profondément, si on comprend ça plus clairement, on va comprendre que non seulement ça sert à rien de développer trop d'attachement ou d'aversion par rapport à choses, mais plus on le voit, plus ça devient une façon de voir les choses, plus on voit qu'il n'y a rien à quoi s'agripper, il n'y a rien à quoi s'attacher, il n'y a rien à quoi qu'il faudrait absolument obtenir, s'approprier, parce qu'il n'y a rien qui puisse être appropriable, il n'y a rien qu'on puisse totalement posséder. Tout se transforme. Les situations, les relations, il n'y a rien qui soit de nature à être possédé. Et de la même façon, il n'y a aucune situation qu'on considère comme négative dont il faille absolument se mettre à l'abri, parce que ces situations-là, elles changent sans cesse. Même si on traverse quelque chose de très dur, au bout du compte, ça changera. Les choses ne peuvent que changer. Et en plus, notre façon de voir les choses va différer selon les individus. Une situation qui est considérée comme défavorable par quelqu'un peut très bien être considérée comme favorable par quelqu'un. Par exemple, ne serait-ce que le coronavirus, parce qu'on en parle en ce moment, il y a des gens pour qui c'est une catastrophe, il y a des gens pour qui c'est extrêmement négatif, et il y a des gens pour qui même ils pourraient en tirer un certain bénéfice. Il y a des gens pour qui ça profite. C'est-à-dire, on parle du coronavirus, on parle d'un événement mondial, on parle de quelque chose qu'on vit tous. On vit le coronavirus, et puis après le coronavirus, on dira j'ai vécu le coronavirus, mais en fait, chacun de nous va vivre le coronavirus de la même, d'une façon tout à fait différente. On va le vivre totalement différent si on est sur le terrain, par exemple, à soigner les malades. Si on fait partie des gens qui sont malades, si on fait partie des gens qui ont perdu des personnes, ou simplement des gens qui ont vécu le confinement lié au coronavirus, toute notre expérience du COVID, quand je dis j'ai vécu le coronavirus, ben finalement ce sera une expérience tout à fait individuelle. De la même façon que les gens qui ont vécu la guerre. En fait, quand on dit j'ai vécu la guerre, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça ne veut pas dire qu'on peut vivre la guerre à travers toutes les fenêtres. En fait, on vit la guerre toujours selon un point de vue, à travers une fenêtre. Et notre expérience sera très différente, par exemple, par rapport à quelqu'un qui a vécu la guerre sur le terrain, c'est-à-dire sur le front. En tant que soldat, que quelqu'un qui a vécu la guerre en tant qu'infirmier, que quelqu'un qui a vécu la guerre à la télé. Parce qu'effectivement, on vit aussi, on est totalement interconnecté. Donc quand il y a un conflit à l'autre bout de la planète, ça a des répercussions sur nous. Mais quand on la vit à travers les informations, à travers la télé, on n'est pas à même de mesurer les répercussions que ça va avoir sur notre quotidien. Et donc on vit la guerre, mais on la vit d'une fenêtre qui est totalement différente de celui qui vit la guerre dans son propre pays. Voilà, toutes les les choses qu'on vit, donc du coup, dans notre façon de les vivre, on va les vivre très différemment. Et non seulement les vivre différemment, mais en plus, quelqu'un qui vit les situations, qui vit la même situation que nous, va la vivre différemment. Et donc, si on comprend que les choses, même si elles apparaissent être, si elles nous semblent être là, être très solides, très réelles, les choses ne sont pas si réelles que ça. Elles ne sont pas si solides que ça. Et que très vite, ça passe à autre chose. Et une fois que ça passe à autre chose, ça nous laisse simplement des souvenirs, quelque chose de fugace, qu'on ait vécu des choses difficiles ou des choses très heureuses, très bénéfiques. Au bout du compte, tout ça ne reste qu'à l'état de souvenirs. Et encore, il faut les rappeler, ces souvenirs, pour que ça ait une, pour pouvoir les ramener à la conscience. Et plus on s'entraîne à voir les choses comme ça, plus on voit qu'il n'y a rien à quoi il faille absolument se mettre à l'abri. Il n'y a rien dont il faille absolument se mettre à l'abri. Il n'y a rien qu'il faille absolument obtenir pour être heureux. Que si on voit les choses comme ça, si on comprend que les choses vont et viennent, eh bien, on apprend à voir une attitude détendue par rapport aux choses, apprendre à se détendre, apprendre à se relaxer, quel que soit ce qui apparaît, que ce soit agréable ou désagréable, on ne laisse pas les choses trop nous perturber, on ne laisse pas les choses trop nous affliger. On se permet de vivre les choses de manière plus détendue, de manière plus légère, et ça ne nous empêche pas de répondre à la situation. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, toujours on répond à la situation en faisant de notre mieux, mais justement plus on va avoir cette compréhension profonde que les choses vont et viennent, qu'elles ne sont pas aussi solides qu'elles apparaissent menaçantes ou qu'elles apparaissent fantastiques, on se permet de ne pas les vivre de manière trop intense, c'est-à-dire avec trop d'angoisse, avec trop d'espoir, avec trop de crainte. Et c'est de cette attitude que va pouvoir naître une véritable joie, une véritable paix profonde qui peut s'installer, parce qu'on sait que le bonheur ne dépend plus de ce qui se passe, de ce qui du fait que les choses arrivent ou n'arrivent pas, mais qu'on peut véritablement trouver cette joie en nous et la laisser s'épanouir, la laisser s'étendre et en plus l'intégrer à travers, la laisser s'étendre à travers toutes les situations. Et donc toute situation va devenir un prétexte à s'éveiller. Une situation positive va devenir un prétexte à s'éveiller, à ne pas céder à l'espoir que cette situation agréable va résoudre tous les problèmes, non? Puisqu'on ne se laisse plus leurrer par ça, on se laisse plus, on se raconte plus des histoires par rapport à ça. Donc on reste très détendu tout en jouissant totalement de la situation, en prenant plaisir à la situation. Voilà, on peut voir une fleur sur le chemin et jouir de sentiments agréables que ça procure, mais ne pas gâcher, ne pas tout gâcher en développant l'attachement dans l'esprit. Laisser cette situation apparaître, la laisser disparaître. Et de la même façon, quand une situation négative arrive, apprendre à ne pas développer trop de sentiments négatifs par rapport à la situation, dans la compréhension que elle va, de toute façon, on ne peut pas empêcher les choses d'arriver si elles doivent arriver, s'il y a des causes et des circonstances qui se mettent en place pour qu'elles arrivent. Donc, il n'y a pas lieu de trop se débattre par rapport à ça, si ça ne dépend pas de nous. Et donc, on peut se permettre de faire de notre mieux pour répondre à la situation, mais s'autoriser à rester stable, à rester en paix, à rester joyeux, en comprenant que on peut être heureux malgré qu'il y ait ça dans notre vie. Et au départ, Ça fait appel à l'acceptation, c'est-à-dire on se raisonne, on est raisonnable, on a un regard philosophique par rapport aux choses. Oui, ça sert à rien de, etc. Mais plus on fonctionne comme ça, plus la sagesse va s'élever en nous. Et la sagesse fait que il s'agit d'une façon de voir les choses, un regard sur les choses qui fait que l'aversion et l'attachement ne peuvent plus naître dans l'esprit. Parce que les choses sont vues pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire phénomènes, impermanents, interdépendants. Que ce soit les émotions, que ce soit les situations, que ce soit les pensées, on dépasse la compréhension intellectuelle que ça sert à rien de s'attacher, que ça sert à rien de développer trop d'aversion, pour passer à un mode de perception qui où on est totalement libre de l'attachement et l'aversion qui ne se développe plus dans notre vie parce que ce n'est plus approprié, ça ne correspond plus à la réalité des choses. On voit qu'il n'y a rien à quoi véritablement s'attacher, rien à quoi véritablement se mettre à l'abri, et donc du coup, on peut se permettre d'être détendu, joyeux en toutes circonstances. Et c'est voilà. Et là, on va parler d'éveil. Et plus, alors ça peut être un éveil d'une seconde, ça peut être un éveil d'une minute, mais plus on va apprendre à vivre les choses comme ça, plus on va voir que la clé se situe là-dedans. Et on va pouvoir poursuivre notre entraînement jusqu'à ce qu'on soit capable de vivre n'importe quelle situation de cette façon-là. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.